Il est midi et demi. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La participation s'annonce massive en Catalogne. Les indépendantistes vont-ils conserver leur majorité absolue gagnée en 2015 ? Correspondance d'Annabelle Grelier dans un instant. Le président polonais réagit vivement à la décision de Bruxelles d'ouvrir une procédure pour violation de l'état de droit. Il accuse des responsables de l'Union européenne de mentir sur les réformes judiciaires en cours en Pologne. Commentaire de Marie-Pierre Véraud. L'Assemblée générale des Nations unies se prononce sur une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Israël qui rejette le vote par avance. Analyse avec Nadine Epstein. La crise humanitaire au Yémen avec le nombre de personnes atteintes du choléra qui atteint le million, dont un tiers d'enfants, selon un chiffre publié par le Comité international de la Croix-Rouge. Nous entendrons la porte-parole de la Croix-Rouge. En France, les responsables de l'audiovisuel public reçus ce matin par la ministre de la Culture, ils ont présenté des pistes communes en prenant en compte notamment le contexte de réduction des crédits pour l'an prochain. Précision de Sophie Delpont, on reviendra aussi sur les états généraux de l'alimentation qui se concluent aujourd'hui et qui sont censés trouver des solutions à la crise agricole, suivie de Catherine Pétillon, l'invitée de la séquence interview, la politologue Sylvia Desazard de Montgaillard, qui est spécialiste de l'Espagne. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Les séries, elles sont partout, pas simplement dans nos télés, mais aussi au cinéma et bien sûr en littérature, puisque c'est la littérature, ou plutôt la presse, qui a inventé le genre avec le roman feuilleton. On va se demander les conséquences de cette extension du domaine de la série sur nos modes de consommation culturelle avec Mathieu Letourneau, notre invité, auteur de fiction à la chaîne Au Seuil.
Le scrutin, donc, devrait être décisif pour l'avenir de la Catalogne, mais aussi de l'Espagne et peut-être encore de l'Europe tout entière. Des élections régionales qui se déroulent aujourd'hui dans la province, qui apparaissent comme un moment de vérité après plusieurs mois de crise politique, parfois émaillée de violence. Des bureaux de vote qui ont ouvert donc ce matin à 9h, qui vont fermer en début de soirée. On aura une première estimation sans doute vers 20h et la participation s'annonce massive. Est-ce que les indépendantistes vont parvenir à conserver leur majorité absolue qui avait été gagnée en 2015? C'est la question centrale qui est posée. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Grands enjeux, forte participation, la tendance qui va sortir ce soir des urnes peut-être surprendre dans un sens comme dans un autre.
Oui, depuis plusieurs jours, les sondages donnent au coude à coude la gauche indépendantiste, l'ERC, et la droite libérale unioniste de Ciudadanos. On évalue à plus d'un million le nombre d'électeurs indécis, un million de voix qui, soit dit en passant, ne pèsent pas la même chose suivant qu'elles proviennent de la campagne ou de la ville, en raison du découpage électoral. Et la campagne catalane est en général plus indépendantiste que la cosmopolite Barcelone. Les bastions de Ciudadanos sont plus dans les villes du sud de la région, comme Barcelone et surtout Tarragone. Il y sera plus difficile de convaincre les ruraux traditionnellement attachés à la catalanité. La gauche républicaine, l'ERC, n'a quant à elle pas gouverné la région depuis 36 ans. Une victoire ce soir signerait son grand retour. Mais la remontée ces derniers jours de la liste de Carles Puigdemont, une liste pluraliste, n'est pas à exclure non plus. Le scrutin pourrait bien réserver en effet quelques surprises. On semble écarter l'hypothèse d'une victoire franche d'un des deux camps et dès lors, la plateforme catalane de Podemos pourrait bien jouer les arbitres, estiment les médias. Mais rien n'est moins sûr. Podemos a fait une campagne assez tiède, pas étonnante, tant son positionnement est ambigu dans un scrutin aussi polarisé, à tel point que ses électeurs ne savent pas encore s'il fera alliance avec les unionistes ou les indépendantistes. Enfin, autre parti dont on a très peu parlé, que l'on donne toujours dernier, la CUP, le parti anti-système et farouchement indépendantiste. Très actif dans les quartiers et les villages ces dernières semaines, il pourrait bien attirer le vote des jeunes et les indépendantistes fraîchement convertis. La CUP, avec ses 10 députés, avait en tout cas donné en 2015 la majorité absolue au dernier gouvernement de coalition indépendantiste depuis Puigdemont.
Merci beaucoup Annabelle Grelier, donc en direct de Barcelone. Et on salue l'invité de la séquence interview, politologue Sylvia Desazard de Montgaillard. Bonjour madame.
Bonjour.
C'est quoi l'enjeu central selon vous de ce vote d'aujourd'hui?
Alors l'enjeu central est très important comme vous le disiez, c'est pour l'Espagne et c'est pour l'Europe aussi. Qu'est-ce qui va l'emporter? On a deux blocs l'un face à l'autre qui sont complètement transversaux, c'est-à-dire du côté des indépendantistes, on va de la droite à la gauche, du côté des unionistes, on va également de la droite à la gauche.
Vraiment deux Catalognes, là.
Deux Catalognes.
Deux éventails politiques.
Exactement. L'indépendantisme disposait de 72 sièges d'après les dernières élections de 2015 dans une assemblée de 135, donc ça se joue autour du numéro magique 68. Qui va avoir 68 sièges, qui est la majorité? Si c'est les indépendantistes, ce qu'on saura ce soir, il va falloir négocier avec Madrid sur des bases différentes de celles d'avant la crise.
C'est justement là où, sans doute, l'enjeu est considérable. S'il y a un vote à nouveau en faveur des indépendantistes, est-ce qu'on va s'engager à nouveau dans un vote de l'indépendance ou une tentative d'acquérir quand même cette indépendance? Et est-ce que Madrid va pouvoir maintenir sa position de fermeté?
Alors, je crois que les indépendantistes ont été rattrapés par trois principes de réalité. C'est-à-dire, premièrement, l'État espagnol, qui était toujours absent et extrêmement prudent et qui rasait les murs, s'est manifesté avec l'article 155 et a mis la région sous tutelle. Deuxièmement, l'Europe s'est prononcée de façon claire et a dit « on vous admettra pas ». Donc, si vous sortez de l'Espagne, vous sortez de l'Europe. Et troisièmement, vous avez 3000 entreprises qui ont quitté le pays, dont de très très grandes, symboliquement très catalanes, qui sont parties soit à Madrid, soit à Valence, soit à Alicante, etc. Donc, si c'est la liste de la gauche républicaine catalane de M. Oriol Junqueras, qui était vice-président du gouvernement dissous, qui est actuellement en prison, qui l'emporte, ils ont une approche qui est l'indépendance reste l'objectif à long terme, mais nous ne pouvons plus agir comme si la fin justifiait les moyens. Il faudra donc négocier. Donc je pense que s'ils gagnent, on se situe quand même en dehors d'une nouvelle déclaration unilatérale d'indépendance.
Merci beaucoup Sylvia de Zazard de Montgaillard pour ces premières explications et on vous retrouve évidemment pour parler plus avant de cette question dans la séquence interview. Le président polonais a vivement réagi hier soir à la décision de Bruxelles d'ouvrir une procédure pour violation de l'état de droit dans son pays. Andrzej Duda accuse même des responsables de l'Union de mentir sur les réformes judiciaires qui sont en cours en Pologne. Ils disent que les changements en Pologne conduisent à violer les principes de l'état de droit alors que, dit-il, nous renforçons les normes de la démocratie, entretien à une chaîne privée de télévision hier soir. Le président qui annonce par ailleurs sa décision de promulguer, malgré tout, deux nouvelles lois qui sont aussi des lois controversées de réforme judiciaire. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Andrzej Duda donc dit que ces réformes ne portent pas atteinte à l'état de droit. Alors peut-être il faut quand même rappeler de quelle réforme on parle précisément.
Mais il s'agit de ce que vous disiez, hein. L'Union européenne considère comme une mainmise totale du pouvoir polonais sur la justice. Ce sont 13 nouvelles lois qui iraient dans ce sens proclamées en 2 ans. Nous parlons là de la refonte de la justice constitutionnelle, des juridictions de droit commun, de la Cour suprême, du Conseil national de la magistrature. Par exemple, pour ce qui concerne la Cour suprême, l'équivalent de notre Cour de cassation, l'une des lois en cause permet de pousser vers la sortie les juges âgés de 65 ans contre 70 aujourd'hui. Sauf dérogation du chef de l'État qui a donc tout pouvoir en la matière. Or, il faut savoir que la Cour suprême en Pologne valide notamment les résultats des élections ou les comptes de campagne des partis. Cette disposition entraînerait le départ de 40% de ses membres, dont celle de la présidente de la Cour suprême. Le nouveau texte, en outre, instaure au sein de cette Cour suprême 2 instances, un conseil disciplinaire et un conseil de recours extraordinaire qui pourrait réexaminer toute décision de justice depuis une 20aine d'années sur plainte de ceux qui s'estimerait victime. Quant à la réforme du Conseil national de la magistrature, chargée de la déontologie des juges, elle instaure une chambre disciplinaire pour juger les magistrats ayant violé la loi et mettre fin à ce que le pouvoir nomme la caste corrompue des juges. 15 des 25 membres de cette instance qui étaient élus par les milieux judiciaires le seraient désormais par le Parlement. Bruxelles demande également la refonte des dispositions sur les tribunaux de droit commun qui ont permis au ministre de la Justice d'écarter 25 présidents de tribunaux et d'en nommer 35 autres.
Après cette décision donc de Bruxelles, quelles sont ce matin les principales réactions en Pologne?
Le pouvoir polonais estime que cette décision européenne, vous le rappeliez d'ailleurs, est politique, qu'elle n'est pas juridique. Il assure qu'il s'agit au contraire de renforcer les normes de la démocratie. Il fait valoir que les États souverains ont un droit absolu à réformer leur système judiciaire, ajoutant que le système polonais actuel est corrompu, inefficace, que ses magistrats jouissent d'une totale impunité et sont des produits de l'époque communiste. Varsovie, qui estime que ces réformes sont démocratiques, se dit d'ailleurs prêt à aller devant la Cour de justice européenne. Les Polonais, eux, dans un récent sondage, dénonce en effet l'inefficacité et la lenteur de leur système judiciaire, mais ils ne se prononcent pas sur le fond de ces réformes. En tout cas, ils sont plusieurs milliers à être descendus ces derniers mois dans la rue pour dénoncer la mainmise du politique sur le judiciaire. Et classiquement, l'opposition, elle, parle d'une attaque du pouvoir contre les tribunaux indépendants et d'une politisation de la justice.
Marie-Pierre Véraud, Israël rejette par avance le vote sur Jérusalem qui est prévu ce soir aux Nations Unies. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, que l'ONU le reconnaisse ou non, a dit ce matin Benjamin Netanyahou. L'Assemblée générale donc des Nations Unies va se prononcer sur cette résolution condamnant donc une résolution qui condamnerait la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Comment se présente donc ce vote ce soir à New York?
Eh bien, malgré les dernières menaces de Donald Trump contre les pays qui voteront en faveur de la résolution sur les 193 membres à l'Assemblée générale des Nations Unies, une très large majorité, vraisemblablement entre 165 et 190 pays, condamneront la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le chef de la Maison-Blanche a lancé cette mise en garde. Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et ensuite ils votent contre nous. Laissez-les voter contre nous. Nous économiserons beaucoup. Cela nous est égal. Fermez les guillemets. Les Américains ont multiplié les pressions, les envois d'emails, de tweets, de lettres pour dissuader les États d'adopter tout à l'heure le texte proposé par le Yémen et la Turquie, résolution qui estime que toute décision sur le statut de Jérusalem n'a pas de force légale et nulle et non avenue et doit être révoquée. La question de Jérusalem doit faire partie d'un accord de paix final entre Israéliens et Palestiniens. Il y a quelques jours déjà, les États-Unis, désapprouvés par les 14 pays du Conseil de sécurité, avaient dû utiliser leur droit de veto pour empêcher l'adoption d'une résolution. L'ambassadrice américaine avait alors qualifié le vote d'insulte que les États-Unis n'oublieraient pas. Cet après-midi à l'Assemblée générale, personne n'a le droit de veto. Les Américains espèrent une dizaine d'abstentions et quelques votes contre. De leur côté, les Palestiniens dénoncent les menaces et les intimidations de Washington. En 1967, pendant la guerre des Six Jours, Israël s'est emparé du contrôle de Jérusalem, puis en a fait sa capitale, capitale non reconnue par la communauté internationale, les Palestiniens revendiquant Al-Quds comme la capitale de leur futur État.
Merci beaucoup Nadine Epstein. A signalé encore cet attentat à Melbourne, une voiture qui fonce dans une foule de piétons, 19 personnes blessées, certains grièvement. La police de l'État de Victoria annonce l'arrestation du conducteur ainsi que d'un deuxième homme. Leurs motivations ne sont pas encore connues pour le moment.
La suite de votre journal, Antoine Mercier. Situation humanitaire dramatique au Yémen en raison de la guerre entre les rebelles Houthis appuyés par l'Iran et la coalition conduite par l'Arabie Saoudite.
Le nombre de personnes atteintes du choléra dans le pays atteint le million, dont un tiers d'enfants. Population totale au Yémen d'un peu plus de 27 millions d'habitants. C'est un chiffre donné ce matin par le Comité international de la Croix-Rouge, selon qui il y a par ailleurs plus de 80% de la population du pays qui manque de vivres, d'eau potable et d'accès aux soins médicaux. Sur ce chiffre de 1 million de personnes donc atteintes par le choléra, le commentaire de Yolanda Jacquemet, qui est la porte-parole pour le Proche et le Moyen-Orient du CICR.
Quand nous parlons de millions, ça veut dire que 1 million de personnes ont été repérées par les autorités sanitaires au travers du Yémen, montrant des symptômes qui sont ceux du choléra. Alors il se peut que parmi ce million, il y a un certain nombre qui n'ait uniquement développé une diarrhée extrêmement aiguë, qui n'était pas strictement parlant du choléra. Mais il est certain que la vaste majorité des cas étaient du choléra. Et ce qu'il faut souligner, c'est que vu les conditions de vie, vu particulièrement les conditions alimentaires, la population est affaiblie. Finalement, le choléra, vous savez, c'est une maladie assez simple. En temps normal, de l'eau avec du sucre et du sel, et vous serez remis sur pied, vous et moi, on le serait. Mais dans le contexte du Yémen, en particulier les enfants malnutris ont eu besoin de soins hospitaliers pour être remis sur pied. Au jour d'aujourd'hui, il est estimé qu'un Yéménite sur 27 a été contaminé par le choléra à un moment quelconque durant les 8 derniers mois. Ce sont là franchement des chiffres moyenâgeux et non pas des chiffres dignes du 21e siècle. Cette épidémie, elle est typiquement le fruit du conflit et ce n'est pas du tout un phénomène naturel.
Yolanda Jacquemet avec Valérie Crova.
Midi 45 sur France Culture. Les responsables de l'audiovisuel public reçus ce matin par la ministre de la Culture, à qui ils ont présenté des pistes communes en prenant en compte le contexte de réduction des crédits pour 2018.
Et oui, ils ont écarté notamment l'idée d'une fusion entre leurs médias, mais relèvent plusieurs pistes de collaboration possibles, comme par exemple des tranches matinales communes à France 3 et France Bleu, et puis une plateforme numérique également intégrée, axée sur la culture, qui associerait donc les quatre groupes publics. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Antoine,
alors,
bonjour
à tous. Ce projet de réforme, il a l'air vraiment maintenant d'être sur les rails, tout le monde en parle, mais on ne sait pas très bien vraiment qui le conduit au fond.
Alors partons des faits d'abord. C'est la ministre de tutelle, la ministre de la Culture, qui recevait ce matin dans ses locaux les 6 dirigeants des 6 entreprises concernées par la future réforme de l'audiovisuel public. C'est donc une manière de poser une première pierre politique du gouvernement, une pierre officielle, un moment ouvert à la presse dans la construction de ce projet auquel tient Emmanuel Macron. Françoise Nyssen, accusée par plusieurs syndicats de ne pas maîtriser le dossier, a donc tenu ce matin ce bilan d'étape. Le mot de fusion est effectivement banni de ce point d'étape. Il n'est question que de synergie et d'optimisation des moyens dans le vocabulaire utilisé aujourd'hui. C'est la mise en musique des propos du chef de l'État qui, à une semaine d'intervalle, a vertement critiqué l'audiovisuel public, notamment lors de l'entretien sur France 2 dimanche. Il y dénonçait un secteur, je cite, « structuré sur le monde d'avant », selon ses mots. Il posait également deux questions, je cite encore Emmanuel Macron, « Qu'est-ce qui justifie que le contribuable mette de l'argent dans France Télévisions et pas dans TF1 ?» Ou encore « Comment mieux mutualiser les choses entre radio, télévision et numérique ?» Des pistes plus radicales étaient d'ailleurs déjà sur la table du ministère précédemment, comme le révélait un document qui avait fuité évoquant un possible rapprochement entre France Télévisions et Radio France, une fusion de France 3 et France Bleu et la suppression de France O notamment. C'est donc une reprise en main aujourd'hui de la communication avant les prochains rendez-vous, notamment en janvier, avec la mise en place d'un groupe de travail resserré à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Sophie Delpont. Mathieu Letourneux, bonjour.
Bonjour.
Invité de la dernière partie de la Grande Table, spécialiste des cultures sérielles et médiatiques. Ça a un sens pour vous, monde d'avant, monde d'après, par exemple pour l'audiovisuel public?
Je pense en tout cas que l'expression monde d'avant est révélatrice des menaces qui pèsent sur l'audiovisuel public et plus largement sur une certaine conception de la politique culturelle, disons étatique, dans une société dans laquelle la question de la transmission de la culture est devenue véritablement problématique parce que la question d'une culture légitime commune est devenue elle-même problématique. À partir de là, je pense qu'on peut être qu'inquiet.
Mais ça veut dire qu'il faudrait conserver malgré tout un organisme public qui fasse ce travail dont vous parlez, c'est ça?
Je pense qu'il faut s'efforcer en tout cas de conserver des espaces de transmission de la culture tels qu'on les concevait autrefois, mais hélas, j'ai peur que la menace soit vraiment très très forte parce que je pense qu'en un sens, quand Macron parle de monde d'avant, il partage une idée collective selon laquelle la culture n'est plus la haute culture, mais est l'ensemble des pratiques culturelles. Et du même coup, ça veut dire que la question de la transmission de la culture est une affaire économique.
Tout est mis sur le même plan, effectivement. Voilà. Et il y a une sorte de relativisation, c'est ça, de vous appeler la haute culture. Bon, je ne sais pas si ce terme-là peut être encore prononcé, c'est ça la question.
Voilà. En tout cas, c'est là qu'est l'enjeu, selon moi.
Eh bien voilà, on reparlera avec vous, Mathieu Letourneux, de tous ces enjeux, et notamment, évidemment, de ce dont vous êtes le spécialiste, c'est-à-dire les cultures sérielles et médiatiques, je crois, au 19e et 20e siècle.
Oui.
Qu'il faudra définir, quand même.
Voilà.
D'abord.
Alors, les États généraux de l'alimentation, qui se concluent aujourd'hui, qui sont censés trouver des solutions à la crise agricole, la transition agroécologique de l'agriculture, la qualité de l'alimentation, la lutte contre les problèmes sanitaires, qu'ils soient accidentels ou frauduleux. C'est une actualité d'ailleurs soulignée par une nouvelle crise chez Lactalis, avec la découverte de salmonelle. Après deux retraits partiels dans les derniers jours, le groupe a décidé d'appliquer le principe de précaution en retirant l'ensemble des produits infantiles et nutritionnels qui sont fabriqués ou conditionnés depuis février de cette année dans son usine de Craon, c'est en Mayenne. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
D'ailleurs, ce matin, le ministre Stéphane Travert évoquait, lors de son allocution d'ouverture, la prise en compte de l'alimentation comme déterminant majeur pour la santé des Français.
Car l'équation qu'il s'agit de résoudre, c'est en résumé comment faire en sorte que les agriculteurs vivent dignement de leur travail, tout en proposant aux citoyens une alimentation de qualité à des prix accessibles, d'où une série de mesures destinées à mieux répartir la valeur au sein des filières agroalimentaires. Alors pour soutenir les producteurs, le gouvernement va ainsi imposer aux distributeurs un seuil de revente à perte de 10% sur les denrées alimentaires. Cela veut dire qu'ils seront obligés de les revendre au minimum au prix auquel ils les ont achetés, majoré de 10%. Une décision critiquée par les associations de consommateurs, comme l'UFC Que Choisir. Elles craignent une hausse générale des prix et estiment naïf de croire que les marges des distributeurs seront répercutées sur les agriculteurs. Le gouvernement lui promet un suivi pour s'en assurer, mais on ne sait encore rien de la manière d'y parvenir. En complément, les promotions dans les grandes surfaces seront encadrées. Elles ne pourront pas dépasser 34% du prix normal, ni 25% du volume annuel vendu. Pour changer la place des agriculteurs dans la chaîne, il est aussi prévu que ce soit eux désormais qui proposent les contrats aux acheteurs. L'idée, c'est que la construction des prix parte de leur coût de production et non plus des marges voulues par les industriels. Enfin, concernant la qualité de l'alimentation, l'heure reste aux déclarations d'intention, comme le souhait d'un plan de développement pour l'agriculteur bio. Annonce reçue avec circonspection. consultation par les acteurs concernés. Il faut dire qu'en septembre dernier, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a supprimé une partie des aides aux agriculteurs bio. La Confédération paysanne regrette plus globalement le hiatus entre la parole et la politique effectivement menée. Tout le monde attend désormais le détail du projet de loi.
Catherine Pétillon, merci beaucoup. On revient vers notre invité donc, pour parler de la Catalogne, Sylvia de Zazar de Montgaillard. Peut-être cette question, disons, sur le moyen terme, est-ce qu'il n'y a pas une tendance aujourd'hui qui est inscrite un peu dans l'histoire, qui veut qu'à terme, la Catalogne arrive progressivement à son indépendance, même si ce n'est pas tout de suite, ou est-ce que ce n'est pas du tout évident selon vous ?
Non, ce n'est pas du tout évident. On a eu, en fait, on en parle très peu, un psychodrame un peu équivalent avec le Pays Basque il y a 12 ans. Avec une différence essentielle, c'est que le président du Pays Basque de l'époque n'a pas joué l'illégalité. C'est-à-dire, il est allé présenter son projet au Parlement espagnol. Et quand il a vu que c'était rejeté, il a été sacrifié par son propre parti. C'est le Parti Socialiste Espagnol qui a pris la présidence du Parti National, enfin du Pays Basque. Et quand le Parti Nationaliste Basque est revenu en 2012, tout était apaisé. Donc on peut imaginer une sortie comme cela, en sachant néanmoins que le Pays Basque a son autonomie fiscale, ce que n'a pas la Catalogne. Donc ce serait peut-être une solution que pourrait avoir la Catalogne. Il y a encore cette marge très importante de négociation entre l'État et la Catalogne.
Marie-Pierre Véraud.
Mais encore faut-il que les acteurs soient disposés à négocier. Alors on aura peut-être de nouveaux acteurs aux manettes en Catalogne. D'ailleurs même les plus indépendantistes, hormis peut-être la coupe, ont dit qu'ils renonceraient à un processus unilatéral d'indépendance. Donc ils ont tendu une main vers Madrid. Est-ce que Madrid, Mariano Rajoy, serait prêt aussi à faire un pas vers une nouvelle Catalogne pour discuter d'une sortie légale ou d'une indépendance ou d'une autonomisation plus grande de la province ?
Je pense que oui. Il faut savoir aussi que quand la décision de mettre la Catalogne sous tutelle a été prise, elle a été prise au Sénat, elle a été prise par trois partis, c'est-à-dire le Parti Populaire, le Parti Socialiste, également Ciudadanos, et donc ça représente à peu près les trois quarts des électeurs espagnols. Donc c'est important de le savoir. Ça n'a pas été une décision exclusivement gouvernementale. Et donc on sait que le Parti Socialiste est très favorable à une sortie fédérale du problème. Inés Arrimadas, leader de Ciudadanos, donc leader de l'opposition en Catalogne, a parlé plusieurs fois d'une sortie fédérale. Tout le monde est d'accord.
Sortie fédérale, ça veut dire qu'il faut rester dans le cadre de l'Espagne.
Il faut rester dans le cadre de l'Espagne.
En accentuant peut-être le côté fédéral.
En acceptant peut-être, surtout en s'acceptant, en faisant son coming out, en s'acceptant pour ce que l'on est, c'est-à-dire un pays fédéral, pas un pays fédéral égalitaire, c'est-à-dire où toutes les régions, où les autonomies, où les futures fédérations ont le même pouvoir, puisque les Basques et les Catalans sont très, très attachés à leur suprématie historique.
Oui. C'est ça qui est très difficile, voilà. Parce qu'il faut un État fédéral où les différents États qui le constituent n'ont pas forcément le même rapport au pouvoir central.
Exactement.
Ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas si ça existe dans l'histoire ou dans le monde, ce genre de principe qui sera difficile à mettre en place. Est-ce que vous avez l'impression que se rejoue aussi, on a beaucoup dit, quelque chose de l'histoire de l'Espagne dans cette crise catalane
laquelle... Ah oui, sans aucun doute, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être fait les mouvements ou les oublier. Bon, la transition démocratique espagnole qui s'est jouée après la mort de Franco est une réussite, en ce sens que le pays s'est vraiment libéré, s'est ouvert, etc. Mais il y a des choses dont on n'a pas parlé, ou qu'on a évité parce qu'on ne voulait pas fâcher. Et ce qui s'est passé dans la relation entre l'État central et la Catalogne, c'est que finalement, à chaque fois qu'à Madrid, il y avait une majorité relative au Parlement, soit socialiste, soit populaire, les Catalans étaient en mesure de négocier plus de compétences, plus de pouvoir. Voilà. Et que ce qui s'est passé dernièrement, c'est que finalement, en 2011, M. Rajoy a été élu à la majorité absolue, donc il n'y avait pas de capacité de négociation avec Madrid, que Madrid était dans une situation, l'Espagne était dans une situation économique désastreuse, et que quand Artur Mas, le président catalan de l'époque, est allé demander l'autonomie fiscale, il a demandé au plus mauvais moment, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre économique, et qu'en même temps, il a dit à Madrid, je peux plus me refinancer sur les marchés internationaux. J'ai donc besoin que vous me refinanciez, vous, l'État espagnol. Et il était en quelque sorte entre les mains du bon vouloir de Madrid.
Une toute dernière question.
Alors, pour revenir au scrutin de ce jour, on sait que les sondages disent que c'est très indécis. La Catalogne est polarisée. Ça fait des mois que l'on dit qu'elle est divisée à part égale entre elle-même et elle-même. Il y a toutefois peut-être une nouveauté qui pourrait sortir. Les deux favoris, d'après les sondages, Oriol Junqueras à la tête de l'ERC, de la gauche catalane républicaine, et la candidate de Ciudadanos dont vous parliez, sont deux têtes qui seraient un petit peu nouvelles pour prendre la tête de l'exécutif et qui ne sont pas marquées par des affaires de corruption, contrairement aux autres.
Voilà, c'est très important. Il faut savoir que c'est le parti de centre-droite, Convergencia y Unió, qui est maintenant Catalunya, enfin, de Monsieur Puigdemont, qui a organisé un véritable système de kleptocratie, qui a dirigé la Catalogne pendant de nombreuses années, où le Parti Socialiste Catalan arrive, et c'est une nouvelle reconfiguration politique, arrive, comme vous le dites, deux partis, l'un très ancien, la gauche républicaine catalane, mais sans casserole, ce qui est très important, et un nouveau parti jeune, libéral, centriste, unioniste, qui n'a pas de casserole non plus. Donc ça voudrait dire qu'on aurait tout d'un coup deux nouveaux joueurs, deux leaders de chaque camp, avec des approches très différentes de celles de leurs prédécesseurs.
Merci beaucoup Sylvia Dezazard de Montgaillard d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce scrutin qui se déroule en ce moment en Catalogne. La météo en France, grisaille et douceur, des températures qui augmentent légèrement de 5 à 13 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et le prochain journal est toujours à 18h sur France Culture avec Stanislas Vazak.